Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui dresse le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un texte personnel et une bribe de phrase marquante entendue dans l'espace public ou son entourage. Aujourd'hui, c'est Robin qu'on reçoit au studio comme dernier invité de la saison 4. Bonjour Robin.
Bonjour, salut Louisa.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ?
Ben merci beaucoup à toi de m'avoir invité, je suis très touché. Alors, je m'appelle Robin, voilà, j'ai 31 ans je crois. J'ai fait des études de philo à la base, j'ai étudié la philosophie. J'ai fait beaucoup de musique et de théâtre quand j'étais petit, au conservatoire et ailleurs. J'ai fait des classes à horaires aménagés. Et là, depuis quelques années, j'ai décidé de reprendre un métier assez particulier, qui était le métier de mon papa avant son décès. Je suis créateur de masques de théâtre, de la commedia dell'arte, donc des masques en cuir principalement. Et voilà, un peu expert entre guillemets dans la matière, au sens où je donne aussi des ateliers, des conférences. Et là, j'ai publié d'ailleurs un bouquin qui est sorti il y a une semaine sur le thème. Bref, la commedia dell'arte, voilà.
Trop bien, on aura l'occasion d'en reparler. C'est la première fois que je reçois un invité qui a écrit un bouquin, donc trop contente. On va commencer tout de suite avec ton choix d'artiste. La première étape de l'émission, comme chaque mois, c'est le choix d'un artiste ou d'une artiste qui, toi, te touche particulièrement. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne ?
Alors c'est Simenon, Georges Simenon, qui donc est un auteur, qui a écrit une immensité de romans et de textes en général. Alors c'est un auteur qui m'a redonné envie de lire en fait, qui m'a vraiment reconnecté à la lecture, à l'exercice et surtout au plaisir de la lecture en fait. Donc ces dernières années, je suis en train de lire tous ces livres en fait. Là, j'en finis un, j'en commence un autre quoi. Donc bien sûr, il y a les Maigret qui sont très connus, mais pas seulement. Il y a plein d'autres romans que lui il appelait ses romans durs, donc des romans un peu plus, durs au sens où ils sont plus, c'est pas des policiers forcément, c'est des. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup parce que déjà il a une écriture boulimique quoi. Et quand on le lit en fait, on est dans la même attitude quoi que sa façon d'écrire. Donc on lit, enfin, en tout cas moi je le lis avec beaucoup de passion, avec beaucoup de voracité, quoi, de gourmandise. Quoi. Et c'est un auteur qui, à mon sens, alors, il a été critiqué très certainement, et à raison, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de plein d'aspects de sa vie personnelle, au niveau politique, au niveau émotif, etc. Mais en tout cas, en termes d'écriture, je trouve fascinant sa capacité à dresser des tableaux sociologiques, en fait, de son époque. Des tableaux qui sont, à mon avis, très objectifs. Il dit pas c'est bien ou c'est mal. Ça me rappelle un peu d'ailleurs mon métier qui est la comédie de l'art. C'est-à-dire qu'il fait vraiment des tableaux humains, en fait. Des tableaux humains, mais qui sont tellement réels et sincères qu'on se rend compte aussi parfois de la violence et du côté terrible de certaines réalités.
En fait, il a aussi, je crois, peut-être beaucoup été dans les milieux qu'il décrit dans ses livres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te touche, le côté presque véracité des faits, presque documentaire sur le terrain, quoi?
Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est ça, c'est ce côté très sincère, très direct, très transparent, très sociologique. C'est vraiment des enquêtes, en fait, humaines aussi. Et encore une fois, ça se lit avec plaisir. Et c'est pas de la mauvaise littérature au sens où c'est pas ni de la mauvaise littérature au niveau esthétique, ni de la mauvaise littérature au niveau moral. Au contraire, il a même des propos parfois de manière très nonchalante qui sont presque, moi je trouve, assez subversif, assez fort, assez politique en fait. Seulement que, évidemment, le personnage était pas, bon, c'était pas un grand révolutionnaire quoi, mais je trouve que c'est un auteur fascinant et très attachant.
On va l'écouter parler de ses premiers rapports à l'écriture. C'était dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel en 1982.
Je n'ai jamais été Rastignac, je ne suis jamais arrivé à Paris, comme certains l'ont dit, pour conquérir Paris. Pas du tout, du tout. J'ai été le plus étonné lorsque j'ai vu que mes livres apportaient de l'argent. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, quand je me suis mis à écrire, j'imaginais que écrire ne rapportait rien, c'était un luxe. Il fallait avoir une autre profession. Et il y avait deux professions où je voyais les gens à peu près ne rien faire. C'était les prêtres qui se promenaient dans le jardin. La cure n'était pas loin de notre petite maison. Et je les voyais se promener avec leur bréviaire pendant des heures dans un très beau jardin potager, magnifiquement entretenu par les élèves des écoles chrétiennes dont j'étais. C'est moi qui allais chercher d'enlever les mauvaises herbes. Je me disais, tiens, il a le temps d'écrire. D'ailleurs, je me souvenais de Lacordaire, de Bossuet, etc. Et ensuite, les officiers. J'étais également près d'une caserne de Lancy, où j'ai d'ailleurs fait mon service militaire. Et je voyais les officiers se promener à toutes les heures du jour et de la nuit. Je me disais, ben, il y avait Xavier Demaître, qui était justement officier, et qui avait pu écrire « Voyage autour de ma chambre » que j'avais dévoré. Alors je me disais, tiens, ben, il faut que je devienne ou prêtre ou officier. Comme ça, je pourrais écrire.
En fait, ce que j'aime bien, c'est déjà la malice un peu qu'on entend dans son ton et sa diction. Et aussi la question de, en fait, je pensais pas qu'écrire pourrait être un métier rapporter de l'argent. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, toi, ça doit peut-être te parler. Enfin, t'as sorti un livre, ce qui est trop bien. Mais voilà, je voulais savoir ce que t'en pensais.
Bah, en fait, oui, t'as raison. Bon, après, moi, j'ai pas publié ce bouquin pour gagner de l'argent non plus. Mais c'est plus par curiosité, par passion, par envie de toucher avec ce support que je trouve très beau. Moi, j'adore les livres. J'ai toujours été un amateur. Au-delà de la lecture, il y a même eu des périodes où je lisais pas forcément beaucoup, mais j'aimais les livres, quoi. Je pense qu'on est, je suis pas le seul comme ça. Je suis bibliophile un peu, quoi. J'adorais les livres anciens. J'habitais pas très loin, là, dans le centre, quand j'étais ado, et j'allais chez les libraires antiques, tu sais, enfin, ceux qui avaient les livres anciens, quoi, avec des reliures en cuir. Et tout. J'adore cette interview parce que c'est très enfantin en quelque sorte. Enfin, c'est très touchant. Il dit voilà, juste, bon, je pouvais faire soit ça, soit ça. Je me suis dit, bon, ben, en fait, je vais écrire. Mmh. Mais c'est ça, en fait, il y a quelque chose de simple.
Boulimie dans la lecture, boulimie dans l'écriture. Mmh. On continue avec ton coup de cœur musical. Robin, on continue en musique avec ton choix, ton coup de cœur musical. Est-ce que, avant qu'on l'écoute, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste et le titre du morceau ?
Alors, c'est Chopin, donc Frédéric Chopin, et c'est l'opus 37 numéro 1, donc c'est une nocturne.
C'est dans la version de Rubinstein.
Thank you.
pourquoi ce morceau-là ?
Ouais, bah, tu vois, ça m'émeut toujours de réentendre Chopin en général. Alors, pourquoi celui-ci en particulier de Chopin ? Parce que tout simplement, il y a, je sais pas, 2-3 semaines de ça, j'étais à Naples, parce que j'ai donc mon atelier en fait, de création des masques de théâtre est à Naples. Et j'étais à Naples, chez moi, et parmi mes vinyles, parce que j'ai aussi une passion, voilà, les livres anciens, les vinyles, un peu des trucs un peu clichés comme ça, mais...
Et parmi... Authentique, tout simplement.
Ouais, ouais. Bah, et donc j'ai une belle platine que j'affectionne particulièrement, j'ai retrouvé donc ce Rubinstein, enfin ce vinyle de Rubinstein, qui est un pianiste grandiose du siècle dernier, et Chopin. Et j'adore Chopin. Et je crois que celui-là, je ne l'avais jamais écouté pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, ou alors il y a longtemps. Enfin, parce que je ne passe pas toujours pas toujours le temps d'écouter mes vinyles, je ne suis pas toujours à Naples. Et donc je le mets, et voilà, c'était ça. C'était la Nocturne, donc l'opus 37 numéro 1. Et en fait, vous savez, cette sensation d'avoir mis la bonne chose au bon moment, tu sais, la bonne musique, ou le bon livre, ou la bonne rencontre, ou peu importe. Tu vois, je l'ai écouté en entier, et je me suis dit, mais. Je la connaissais bien sûr, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue, cette Nocturne. Et je me suis dit, c'est exactement ça que j'avais besoin d'entendre là, maintenant. Quoi. Et Chopin, en général, c'est mon enfance. Ça appartient à un univers indicible un peu de mon enfance. Vous savez, ces univers un peu flous qui nous habitent, ces endroits un peu imperceptibles, un peu intouchables. Parce que ma mère joue du piano, mon grand-père, qui était juif, était pianiste, juif polonais. Et il jouait Chopin. Et c'est resté... Mon grand-père est décédé quand j'étais tout petit. Mais dans mon esprit, quand j'entends Rubinstein qui joue, j'entends mon grand-père, en fait. Donc ça me touche beaucoup. Et j'entends ma mère aussi. Et ma mère me disait qu'elle jouait Chopin quand elle était enceinte de moi. Et donc c'est un univers qui me berce. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, je voulais le partager. Et mon oncle aussi, le frère de ma mère, est aussi pianiste. Et il joue merveilleusement aussi Chopin. Et donc c'est...
Tu t'es reconnecté au côté maternel de ta famille par la musique, quoi.
Voilà.
C'est très beau. Et justement, j'avais envie de te dire quelque chose que j'ai ressenti en écoutant le morceau. J'ai l'impression que qui dit musique classique et Chopin... Enfin, forcément, on va avoir des images, on va être dans quelque chose de nostalgique, en tout cas tourné vers le passé un petit peu, ouais. Vers notre histoire. Et je voulais savoir, à ce moment-là, quand t'écoutes à Naples ce morceau, est-ce que tu te souviens ce qui se passe dans ta tête ?
Bah en fait, tu sais, ça se passe pas vraiment dans la tête, ça se passe sur la peau, des frissons, la chair de poule, et puis ça se passe dans l'émotion, tu vois. Il y a un pleur, moi je pleure en fait souvent, et je pleure quand je suis ému, et je trouve ça dommage parce que souvent les gens associent le fait de pleurer à un truc négatif, ah mais non pourquoi tu pleures, ou ah mais non mais faut pas pleurer, mais non c'est très bien de pleurer pour un garçon comme pour une fille, pour tout le monde, pour n'importe qui, c'est pour moi pleurer quand c'est un pleur, surtout quand c'est parce que t'es ému, ça fait du bien en fait, enfin je sais pas, moi ça me, peut-être que j'ai un rapport un peu mélancolique à la vie peut-être, mais moi c'est pas quand je pleure, c'est une joie aussi parfois, donc ouais c'est plutôt ça, je dirais, j'ai eu une petite larme et puis un moment où je m'apaise, et je pense que c'est pour ça que ça m'a fait du bien de réécouter Chopin, parce que ça m'a reconnecté à quelque chose que j'avais pas entendu depuis longtemps aussi.
Et est-ce que tu penses que la musique classique, ou ce morceau-là en particulier, peut aussi être tourné vers le futur ?
Ben oui, c'est ça. Et voilà, et d'ailleurs, bon, juste ça c'est une note technique, mais cette Nocturne de Chopin, elle finit sur une tierce picarde, donc ça c'est un truc un peu technique, mais une tierce picarde, c'est en gros, le morceau est en mineur, en gros, enfin, toutes les mesures avant sont en mineur, et ça finit sur un accord majeur, c'est-à-dire mineur, donc c'est quand c'est triste un peu, quand c'est mélancolique et tout d'un coup ça finit sur un accord majeur, qui est donc un moment joyeux et lumineux. Et moi, je trouve ça, rien que ça, par exemple, on fait écouter ça à n'importe qui, c'est merveilleux, cette capacité de transformer une émotion triste tout d'un coup qui termine comme une espèce de point d'orgue sur, au contraire, un truc joyeux, un sourire, comme une vie un peu mélancolique, mais qui finit heureuse.
La touche joyeuse de la fin qui rappelle les pleurs qui font du bien, finalement.
Voilà, exactement, exactement.
On continue, merci beaucoup, avec ton partage de texte.
Oui.
C'est un moment de l'émission qui est assez intime, puisque tu vas partager un texte que toi, tu as écrit. Est-ce que c'est le moment où on revient à ton bouquin ?
Ouais, tout à fait. Alors, c'est un peu de la triche, en réalité, parce que oui, c'est un texte que j'ai écrit, mais qui est basé sur des textes de mon papa. Donc, le bouquin s'appelle « Bref, la comédie de l'arte ». Et on a fait un choix, en fait, donc déjà de texte, donc je vais expliquer ça. Et surtout d'images très, très précis, puisque c'est des images qui viennent, donc des photographies récentes ou anciennes, de masques de mon père. Donc l'objet masque, masques et les masques en mouvement. Les textes, c'est en fait une sélection de propos de mon père. Et donc, juste avant sa mort, il m'a fait des cours oraux. Il était aveugle à l'époque, quasiment totalement aveugle. Donc, il m'a raconté à l'oral les différents personnages et l'histoire du genre. Et donc, j'ai pris des notes. Donc, il y a une bonne partie de mes notes, de ces propos oraux qui sont là-dedans. Il y a aussi des interviews que j'ai retrouvées de lui plus tard, des interviews plutôt à la télévision ou alors des vieilles cassettes qu'on avait à la maison, des gens qui... Voilà. Il y a des manuscrits, parce que j'ai retrouvé quand même quelques manuscrits de mon père, mais c'était des notes en fait que lui prenait pour ses conférences ou ses spectacles ou ses présentations, donc c'était des courts manuscrits, mais ça a servi aussi. Et là, donc c'est la première version française, inédite, donc des textes traduits par mes soins de mon père, donc qui ont été choisis, transcrits, choisis, structurés par mes soins, plus un petit peu réécrit quand même sur certains passages pour un peu les remettre en contexte et les articuler avec le reste, et annoter avec des notes de bas de page. Voilà. Je vais choisir un texte qui est quand même un texte de mon père, mais que j'ai réécrit un peu, et surtout que j'ai pour le coup vraiment annoté. Donc je vous lirai aussi la note de bas de page, parce que voilà, il y a plein de notes de bas de page dans cette version française.
On retrouve l'universitaire en toi.
C'est clair.
Donc le passage en question, merci beaucoup, on t'écoute.
Merci à toi, donc Pedro Lino. Ancêtre du Pierrot apparu au XVIIIe siècle, il n'en a pas le romantisme doucereux. Son ingénuité presque enfantine fait de lui un révélateur involontaire de l'hypocrisie humaine. Curieux de tout, surpris de tout, chercheur de la lune, masque spirituel, il n'est pas offensé par la matière, il n'a ni faim ni soif, il observe chaque chose, chaque situation avec un optimisme obstiné. Son habit est simple, presque négligé. Son masque a un nez retroussé, donnant de la légèreté à son regard sur le monde. L'asymétrie de son visage permet à chaque chose d'être aussi vraie que son contraire et traduit la subtile perturbation engendrée par les questions qui ne cherchent pas de réponse. Donc voilà, ça c'est le passage de mon père que j'ai très peu remanié pour le coup, donc, et qui illustre donc ce personnage. Et après, moi, ce que j'ai commenté, alors c'est pas très poétique, hein, c'est assez technique, mais ça va quand même.
Ouais, très bien, on t'écoute.
Le contre-masque de Pierrot peut être celui d'un idéaliste déçu par le réel. Très égocentrique, il en devient agacé, capricieux, voire tyrannique comme un enfant. Le personnage de Peter Pan, du moins dans la version Disney, par exemple, reflète certainement cette contradiction caractérielle du personnage. Ou, dans un autre domaine, Jacques Tati, avec Monsieur Hulot, fait aussi un très bon Pedro Lino. Pinocchio, enfin, est bien évidemment du type pedrolinesque.
Merci beaucoup Robin pour la lecture donc, d'un passage de ton texte. On passe tout de suite à ton œuvre phare. Alors parmi tous les types d'art possibles, tu as dû choisir une œuvre qui toi t'a touché, t'a marqué pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ?
J'ai choisi un poème de Robert Desnos. J'adore la poésie. J'ai découvert intensément la poésie il y a une petite dizaine d'années à peine, juste avant la mort de mon père et juste après... grâce à un lieu merveilleux que je conseille à tout le monde qui s'appelle le Club des Poètes. Un merveilleux lieu de poésie où en fait on dit des poèmes quasiment tous les soirs. La seule règle, c'est que les poèmes doivent être dits par cœur.
Toi, tu as dit le poème de Robert Desnos ?
Alors celui-ci, je ne le connais pas par cœur, okay. Justement. C'est un de ceux que je ne connais pas par cœur, étonnamment, parce que j'en connais plein par cœur, donc j'aurais pu choisir plein d'autres poèmes. Mais j'ai choisi celui-ci. C'est la dernière phrase, en fait, en particulier de ce poème, que je trouve... absolument essentiel.
Donc, quel est ce poème ? Est-ce que tu nous l'as dit ?
J'ai tant rêvé de toi.
Donc, est-ce que, oui, tu veux lire la dernière phrase qui t'a particulièrement touché ?
J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre cent fois que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Et c'est un poème qui est dur sur l'amour, sur la vie, au sens où, même si c'est très simple, dur au sens où il y a quelque chose de triste, de fantasmatique, de fantomatique même. Et en fait, ce cadran solaire de la vie, de ta vie, je ne sais pas, je trouve que c'est juste merveilleux comme image.
Parce voilà. Qu'il y a dans le poème, là on ne va pas le lire en entier, mais il y a quand même l'image de... l'amour inatteignable, impossible, presque inattrapable, quoi, concrètement, qui est une image touchante et à la fois un peu un topos. Enfin, je veux dire, l'amour impossible, c'est assez, c'est assez courant. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment les derniers mots qui, au final, déplacent un petit peu l'idée générale du poème qui, toi, t'ont attrapé.
Voilà.
Merci beaucoup. On va terminer l'émission avec la dernière étape, qui est celle de la bribe de phrase. Robin, c'est la dernière étape de l'émission, celle d'une bribe de phrase que tu as entendue dans l'espace public ou privé. On fait plus trop de distinctions. En tout cas, une phrase qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre, que ce soit, j'ai envie de dire, en italien à Naples ou en français à Paris ou autre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'anecdote de quand a surgi cette phrase, en fait, dans quel contexte?
C'était en Italie, et c'était en italien, et c'était même, non, plus précisément en napolitain, c'était pas en italien, c'était en napolitain. C'est le livreur de mes repas du midi quand je travaille à ma boutique à Naples. Mm-hmm. Donc j'ai une boutique qui est dans le centre historique de Naples, et il y a un lieu en particulier que j'affectionne, où pour 10 euros, il t'apporte entrée plat dessert, seulement que c'est à la napolitaine, donc c'est primo, secondo, contorno. Donc tu manges pour 4 jours. Et tu payes 10 euros, voilà.
Super. Donc voilà. Je te donnerai l'adresse.
Voilà, et c'est cuisine familiale, etc. Et en plus, il te l'apporte parce que voilà, moi, je travaille, donc j'ai pas forcément le temps. Et donc, c'est un personnage comme on n'en fait plus aujourd'hui dans d'autres villes, quoi, Lino. Je sortais d'une rupture. Enfin, ça faisait quelques mois que donc voilà, j'avais été en couple avec une Italienne. Bon, ça s'est terminé. Bon, c'est elle qui m'a quitté. Et au bout de plusieurs mois, ça allait un petit peu mieux. Donc j'étais à ma boutique, j'ai recommencé à travailler et je commande à manger. Et Lino arrive et il m'apporte donc mon repas. Il me dit, bah, t'as pas l'air dans ton assiette, tout va bien et tout. Et je lui dis, bah, tu sais, voilà, ça va un peu mieux, mais bon, on s'est séparé avec ma copine il y a quelques mois, donc ça a été dur et tout. Et lui, il me regarde et il me dit, mais c'est elle qui t'a quitté ou c'est toi qui l'as quitté? Et moi, je lui dis, bah, c'est elle qui m'a quitté. Et lui, il me dit, alors c'est elle qui perd quelque chose.
Tu peux nous dire en napolitain ou pas?
Alors, lei che perde qualcosa.
C'est ça, mais je sais plus. En fait, voilà.
Et c'était tellement efficace, quoi. Et je me suis dit, c'est ça. C'était ça la phrase. C'était alors, lei che perde qualcosa.
Ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Robin, d'avoir été la voix enchantée du mois de juin. Et aussi, donc, la voix enchantée qui clôt cette 4e saison. Vous pouvez retrouver plus de 40 épisodes en podcast sur le site de Radio Campus Paris. On se retrouve en septembre pour continuer de découvrir les portraits radio d'invités à travers leurs goûts artistiques. Générique fin.
Merci Louisa.
Merci. Bonne soirée à toutes et tous sur le 93.9.